Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 21 septembre 2023, en direct de Washington, Idrissa Seydoudia. Pour commencer les titres, Félix Tshisekedi veut un retrait accéléré de la MONUSCO à partir de fin 2023 au lieu de décembre 2024. Nous retrouverons notre envoyé spécial à l'Assemblée générale de l'ONU à New York, Alexandrine Orlognon. Au Niger, le président déchu, Mohamed Bazoum, saisit la justice ouest-africaine pour sa libération. En Tunisie, des milliers de migrants campent près de Sfax en attendant de partir vers l'Italie. L'Arabie Saoudite et Israël se rapprochent d'un accord de normalisation, selon le prince héritier saoudien. Ici à Washington, le Sénat valide la nomination du général africain-américain Charles Brown, nouveau chef d'état-major interim. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. L'Assemblée générale des Nations unies se poursuit aujourd'hui à New York avec le débat général entamé mardi. Hier, plusieurs dirigeants mondiaux, dont des chefs d'État africains, étaient à la tribune. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a demandé le retrait rapide de la MONUSCO, l'importante mission de maintien de la paix des Nations unies présente dans le pays depuis près de 25 ans. Le compte-rendu de cette journée avec notre envoyé spécial Alexandrine Orlognon.
Il est temps que notre pays prenne pleinement en main son destin et devienne l'acteur principal de sa propre stabilité, a déclaré le président Félix Tshisekedi devant l'Assemblée générale des Nations unies. Il a notamment demandé à l'ONU d'accélérer ce retrait et de sanctionner toute personne physique et morale reconnue comme auteur, co-auteur et complice des crimes de guerre commis en RDC. Tshisekedi a de nouveau accusé le Rwanda de soutenir le groupe rebelle M23. Le président du Rwanda, Paul Kagame, s'était aussi prononcé hier. Il a mis l'accent sur la crise de la dette qui pèse sur les pays en développement, notamment les coûts d'emprunt plus élevés qui entraînent une aggravation des disparités économiques, ce qui ralentit selon lui les progrès collectifs vers la réalisation des objectifs de développement durable. Il a en outre souligné que l'Afrique avait un besoin urgent d'être pleinement représentée dans les organes où sont prises les décisions concernant son avenir. Parallèlement au débat général, s'est tenu le Conseil de sécurité des Nations Unies où s'est prononcé le Premier ministre gabonais Raymond Ndongsima, qui est revenu sur les conséquences néfastes du conflit ukrainien sur le continent africain. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé l'ONU à retirer le droit de veto à la Russie, estimant que tous les efforts pour mettre fin à la guerre en Ukraine font face au veto de l'agresseur ou de ceux qui le soutiennent.
Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré hier aux dirigeants mondiaux que la dépendance de l'humanité aux combustibles fossiles a ouvert les portes de l'enfer. Il a donné le coup d'envoi d'une réunion sur le climat dont les principaux pollueurs, la Chine et les États-Unis, ont brillé par leur absence. Le point avec Michel Joseph.
Antonio Guterres a présenté le sommet de l'ambition climatique comme un forum où les dirigeants ou les ministres vont annoncer des réalisations concrètes de leur engagement dans le cadre de l'accord de Paris. Dans son discours d'ouverture, il a évoqué la chaleur épouvantable et les incendies historiques de 2023, mais a insisté sur le fait que l'avenir n'est pas figé. C'est aux dirigeants du monde de l'écrire. Le chef de l'ONU précise que seuls les dirigeants qui ont élaboré des plans concrets pour réduire à zéro les émissions de gaz à effet de serre seront autorisés à prendre la parole. Après avoir reçu plus de 100 demandes de participation, les Nations Unies ont finalement publié mardi soir une liste de 41 orateurs. Le président américain Joe Biden, qui s'est adressé mardi à l'Assemblée générale, a envoyé son émissaire pour le climat, John Kerry. Il ne sera pas autorisé à s'exprimer dans la partie réservée aux personnes qui agissent. Le président chinois Xi Jinping et le premier ministre britannique Rishi Sunak n'ont même pas fait le déplacement à New York.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Gabon, 3 semaines après le coup d'État qui a chassé du pouvoir le président Ali Bongo Ondimba, son fils Noureddine Bongo Valentin et des proches de son ex-cabinet ont été mis en examen et incarcérés notamment pour corruption. Selon le procureur de Libreville, André Patrick Ropona, 10 personnes ont été inculpées mardi, notamment de corruption, de détournement de deniers publics et de 10 autres chefs d'inculpation. Et au Niger, le régime militaire, issu d'un coup d'État contre le président Bazoum, a annoncé hier soir la création d'une commission de lutte contre la corruption, selon un communiqué lu à la télévision nationale. Elle a pour mission principale le recouvrement de tous les biens publics illégalement acquis ou détournés, a déclaré le colonel-major Amadou Abdrahman. Il a rappelé que le général Tiani, dans sa première déclaration publique à la télévision en tant que chef du régime, avait notamment justifié le coup d'État par la lutte contre la corruption, l'impunité, le détournement de deniers publics et la mauvaise gouvernance. Au Niger, toujours, le président déchu Mohamed Bazoum a saisi la Cour de justice de la CEDEAO pour obtenir sa libération et le rétablissement de l'ordre constitutionnel dans le pays, a annoncé hier son avocat sénégalais Seydou Diagne. Nous demandons, au vu de la violation des droits politiques, a-t-il dit, que l'État du Niger soit condamné au rétablissement immédiat de l'ordre constitutionnel par la remise du pouvoir au président Bazoum, qui doit continuer de l'exercer jusqu'à la fin de son mandat le 2 avril 2026. Maître Diagne a parlé d'arrestation arbitraire et de violation de la liberté d'aller et venir de M. Bazoum, de sa femme Aziza et de son fils Salem, détenu avec lui au palais présidentiel depuis le coup d'État du 26 juillet. En Côte d'Ivoire, après un total de 71 cas, dont 9 décès enregistrés dans un village près de Boaké, le ministère de la Santé a émis une forte suspicion d'intoxication alimentaire. Son directeur de cabinet, Charles Kofi Aka, a déclaré mercredi qu'il s'agit d'une forte suspicion de toxi-infection alimentaire collective suite à une consommation de bouillie de maïs contaminée par les herbicides survenus dans le village de Nyangban. Le ministère explique que l'inspection de la chambre où est stocké le maïs ayant servi à la préparation de la bouillie a permis de découvrir 3 bidons d'herbicides et de la farine de maïs étalée pour le séchage. Des milliers de migrants, en majorité des ressortissants subsahariens, campent dans des conditions précaires au nord de la ville portuaire de Sfax en Tunisie. Ils sont dans l'attente d'une traversée vers l'Italie après avoir été chassés par les forces de sécurité. Les détails avec Nani Talani.
Selon des organisations humanitaires, environ 3000 migrants vivent dispersés dans des champs d'oliviers près de la mer, entre Gébignana et Al-Amra, à environ 30 km au nord de Sfax. Certains migrants sont là depuis début septembre, lorsque les autorités tunisiennes ont cessé la distribution de nourriture à quelques 1800 migrants rassemblés dans le centre de Sfax. Cependant, les forces de sécurité ont expulsé des centaines d'autres migrants de Sfax le 17 septembre lors d'une opération majeure annoncée publiquement. Environ 500 migrants ont été évacués et dispersés par petits groupes vers des zones rurales, a ajouté Romdan Ben Amor, porte-parole d'une ONG humanitaire. Après un affrontement qui avait abouti à la mort d'un Tunisien, au moins 2000 migrants subsahariens ont été chassés de Sfax entre juillet et août et conduits de force par la police vers des zones désertiques et inhospitalières, près des frontières avec la Libye et l'Algérie. Au moins 27 sont morts dans le désert et 73 sont toujours portés disparus, mais des centaines ont pu être secourus.
L'Arabie saoudite et Israël se rapprochent d'une normalisation de leurs relations qui serait historique, a déclaré hier le prince héritier saoudien Claire Morin-Gibourg.
On s'en rapproche tous les jours, a affirmé Mohamed Ben Salman en parlant d'un accord de normalisation avec Israël dans un entretien avec la chaîne Fox News. Le prince héritier a ajouté « Pour nous, la question palestinienne est très importante, nous devons la résoudre ». Il a averti parallèlement que son pays se doterait de l'arme nucléaire si l'Iran faisait de même. Cette possible normalisation pourrait impliquer des garanties de sécurité de la part des États-Unis pour la monarchie pétrolière. Selon MBS, cela renforcerait leur coopération militaire et économique. Israël a déjà normalisé ses relations avec 5 pays arabes, Bahreïn, l'Égypte, la Jordanie, le Maroc et les Émirats arabes unis. Ces déclarations ont fait réagir l'Iran. Le président Ebrahim Raisi a averti mercredi soir à New York qu'une éventuelle normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite constituerait une trahison de la cause palestinienne.
La Minute Éco, Nanik Talani.
Au Togo, la Société financière internationale a investi 300 millions de dollars dans divers projets privés couvrant des secteurs tels que l'énergie, les télécommunications et la mobilité urbaine. Plus récemment, la société a signé un accord avec l'Association des grandes entreprises du Togo, AGET, pour soutenir les PME et les aider à obtenir davantage de financement. La Cour suprême du Royaume-Uni a décidé que le Mozambique peut poursuivre le constructeur naval Privinvest en Grande-Bretagne pour corruption présumée liée au scandale des prêts de 2 milliards de dollars pour la pêche au thon. Maputo accuse Privinvest d'avoir versé plus de 130 millions de dollars de pots de vin à des fonctionnaires corrompus et à des employés du Crédit Suisse. Privinvest soutient qu'il s'agit de paiements légitimes, d'investissements ou de contributions à des campagnes politiques. Terminons par ExxonMobil qui a promis une production supplémentaire de pétrole de près de 40 000 barils par jour pour ses opérations au Nigeria. Ce sera dans le cadre d'un nouvel effort d'investissement dans le pays, a déclaré la présidence, citant le président des opérations mondiales d'Exxon.
Merci Nanit. À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
La Basketball Africa League s'invite à l'Assemblée Générale de l'ONU.
Oui, avec la présence de son président Amadou Galofal, patron de la Basketball Africa League, qui dit être venu à New York pour faire connaître davantage le fruit de la NBA sur le continent.
Un événement comme celui-là nous présente l'opportunité d'aller vers les supporters, d'engager de nouveaux fans dans cette aventure. Avoir Claire Akamandi ce matin, qui est le CEO de Rwanda Development Board, notre partenaire principal, qui a parlé de ce que le partenariat signifie pour le Rwanda, et nous aussi sur le même panel, le Rwanda Development Board est notre premier partenaire. Parler de la destination de Kigali où on joue le final, où nous avons renouvelé un partenariat pour les prochaines 5 années, ça veut dire que c'est un partenariat qui marche. Il y a déjà beaucoup de monde ici autour du sommet des Nations Unies qui viennent de différents pays du monde et de la diaspora africaine qui ont exprimé le désir de venir assister au final à Kigali ou bien aussi dans les autres pays où on va jouer.
Amadou Galofal, président de la Basketball Africa League. Dans sa délégation, on compte l'un des investisseurs de la balle, Joaquim Noah, ancien basketteur NBA. Il revient sur le pourquoi de son implication et l'avancée du basket sur le continent.
J'ai investi parce que c'est mon héritage, j'ai investi parce que c'est mes racines, et pouvoir travailler avec une plateforme surtout une plateforme de basket que je connais très bien, ça me fait vraiment plaisir. Je sais que je travaille avec aussi Amadou Galofal qui est quelqu'un qui m'inspire beaucoup.
Joachim Noah, ancien basketteur NBA, des propos recueillis sur place à New York par Sims Loumami et Mayra Fernandez du service portugais de la VOA.
Merci, Yacouba.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, et nous vous le disions hier, les députés ont adopté le projet de loi autorisant l'envoi d'un contingent militaire burkinabé au Niger. Le projet de loi a été adopté à l'unanimité des 71 votants. Le pays prévient que si le Niger est attaqué, il réagira en conséquence. Les populations, pour la majorité, saluent cette décision. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Le Burkina Faso est prêt à envoyer un contingent militaire au Niger, non seulement pour lutter contre le terrorisme, mais aussi riposter en cas d'agression par la CEDEAO. Le colonel Kassoum Koulibaly est le ministre de la Défense.
Nous avons laissé passer des trucs pareils pour la Libye. En 2012-2013 pour le Mali, ne laissons plus des troupes pareilles arriver dans un autre pays proche ou voisin de nous. Nous voulons être sûrs que si toutefois certains gouvernants arrivaient à enfreindre à l'article 2 de la Charte des Nations Unies et même au traité qui concerne la CEDEAO pour s'attaquer à un pays voisin pour des raisons quelconques, où nous savons clairement que ce n'est pas bien défini, nous réagirons en conséquence.
À Ouagadougou, l'envoi de ce contingent militaire au Niger est vu, plus ou moins, d'un bon œil. Brice Ndo, comptable.
Moi, je pense que c'est une bonne initiative. Même quand on a des problèmes, on les résout de façon pacifique. Et ça ne sert à rien d'aller agresser le Niger parce qu'il y a eu un coup d'État. Déjà, le Niger est un pays qui est mal au point, économiquement et même politiquement. On a le terrorisme qui a envoyé le Niger, le Burkina, le Mali.
Daouda Nana est un agent du privé.
Concernant les intérêts nationaux, bon, je pense que c'est une bonne idée. Voilà, mais maintenant, bon, sur le plan de la coopération, je pense que c'est une loi que je pense à refaire. Je vois que c'est une politique de confrontation et je pense que ce n'est pas vraiment une bonne idée pour carrément la sous-région.
Crépet Tanyabou exerce dans les affaires.
Le Niger, depuis quelques années, connaît des moments difficiles avec la situation sécuritaire. Mais cette même CEDEAO n'a jamais envoyé des militaires pour venir aider à combattre contre le terrorisme. Mais c'est paradoxal qu'après un coup d'État, que la CEDEAO du coup trouve une force qui puisse venir intervenir pour déloger les nouvelles autorités.
La durée de la mission du contingent militaire burkinabé sera de 3 mois renouvelable. Pour le moment, on ne sait pas combien de soldats seront mobilisés ni la date de leur déploiement. C'était fin août que le gouvernement autorisait en Conseil des ministres l'envoi d'un contingent au Niger. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Dans le centre du Mali, l'élevage est l'une des principales activités en zone rurale, mais ces dernières années, l'insécurité et le vol de bétail a porté un coup dur au secteur. Plus de 200 000 têtes de bovins et ovins ont été volées suite aux attaques des groupes armés. L'État et ses partenaires appuient les électeurs et les aident à reconstituer leur cheptel. De Koro, un reportage de notre correspondant Tidjani Ouedraogo.
Les secteurs de l'agriculture et de l'élevage sont les piliers de l'économie dans le centre du Mali. Les cheptels en provenance de la région ravitaillent les marchés de Bamako et des pays voisins comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Bourama Guindo profite bien du secteur depuis des années.
J'achète les bovins ici pour les vendre à Bamako, Abidjan et Dakar, surtout à la veille des fêtes de Tabaski.
Depuis le début de la crise sécuritaire dans le centre du Mali, le secteur de l'élevage a été touché de plein fouet. Comme Drissa Tapili, beaucoup d'éleveurs ont perdu leur bétail suite aux attaques terroristes.
Ils sont des éleveurs le petit soir, attaquer les villages. Après leur forfait, ils sont repartis avec plus de 200 têtes de bétail.
Selon lui, l'élevage était un secteur profitable à cause de son apport sur le plan économique.
L'élevage était pour nous à titre d'exemple. On pouvait vendre les bovins pour acheter des céréales en période de soudure. On les vendait aussi pour financer les cérémonies de mariage au village.
Selon une étude de la direction régionale de l'agriculture, plus de 200 000 têtes de bovins et ovins ont été volées dans les cercles de Badiangara, Bankas et Koro, affectant du coup l'approvisionnement du lait local sur les marchés. Mariam Diko est l'une des rares femmes à vendre du lait local dans la ville de Koro. Son mari traite le lait chaque soir après le pâturage.
Mon mari traite le lait et je le vends pour subvenir aux besoins de la famille. On trouve nos condiments grâce à la vente du lait. On profitait bien de l'activité avant la crise sécuritaire. Maintenant, le lait est rare et le prix est à 500.
Comme Alassane, beaucoup peinent à acheter des ovins pour les cérémonies de mariage ou baptême à cause de la flambée du prix sur les marchés.
Je suis venu acheter un mouton, mais j'ai pas pu à cause du prix élevé. Vraiment, l'État doit prendre des mesures contre les revendeurs, sinon à ce rythme, on ne peut plus payer des bétails dans le marché.
Pour reconstituer le cheptel dans le centre du pays, l'État et ses partenaires techniques et financiers accompagnent les éleveurs. Djenemou Dolo est une bénéficiaire.
J'ai bénéficié de deux sacs d'aliments vitaux et de médicaments. C'est pour encourager les acteurs de l'élevage dans les zones de crise.
L'élevage joue un rôle important dans la création des richesses et de la lutte contre la pauvreté en milieu rural. Beaucoup fondent l'espoir pour la redynamisation de l'élevage dans les centres du Mali. Tidjani Ouedraogo pour VOA Afrique, Koro.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
En RDC, les journalistes ont fait un sitting hier à Kinshasa pour exiger la libération de leur confrère Stanis Boujakera, le correspondant de Jeune Afrique détenu depuis le 8 septembre. Eddy Issango a joint à Kinshasa le porte-parole du Rassemblement des journalistes pour l'émergence du Congo, organisateur du Rassemblement Edmond Izouba.
Donc, Rassemblement des journalistes pour l'émergence du Congo, nous avons tenu notre sit-in aujourd'hui devant le cabinet donc, du ministère, devant le ministère de la Justice et Garde des Sceaux pour exiger l'abandon des poursuites judiciaires et harcèlement contre les journalistes pendant cette période électorale. Et à la suite de cette manifestation, nous avons remis un mémorandum à l'attention de la ministre de la Justice qui est en déplacement. Le mémo a été réceptionné par son conseiller.
Vous avez suivi la réponse que le président a donnée à une question ici, d'ici à New York, en disant que l'enquête était en cours, il fallait laisser la justice faire son travail.
Oui, nous avons suivi attentivement sa réponse, mais nous aussi, nous le faisons comprendre nos revendications à nous, qui donc éclairent nos revendications légitimes, parce que là, nous n'arrivons pas à cerner qu'est-ce qu'on reproche réellement au journaliste Stanis Boujakera, parce qu'il est ni auteur de l'article, aussi, Boujakera n'a commis aucune faute légale ni faute professionnelle. Voilà pourquoi nous avons suivi le chef de l'État et nous estimons que nous avons nos revendications qui sont légitimes. Nous avons annoncé la semaine prochaine, dès qu'il sera de retour ici à Kinshasa, nous irons le voir pour déposer une lettre ouverte à son intention.
Pour vous, cette arrestation du journaliste Boujakera a une incidence sur la démocratie en RDC ?
Oui, tout à fait. Non seulement ça a une incidence pour notre jeune démocratie, mais aussi la liberté de la presse tant promise par le président de la République. Vous vous rappelez, lors de sa prestation de serment, le président a promis une presse libre. Et voilà, pendant que le journaliste célèbre la nouvelle loi sur la liberté de la presse, il y a encore des actes tant décriés dans le passé. Donc, nous estimons que ça, c'est une entrave, c'est une oppression à la liberté de la presse, à la liberté d'expression. Donc, voilà. Donc, nous estimons que la place de Boujaquera n'est pas en prison et cette période électorale devrait être cristallisée par une presse libre et indépendante qui devrait, en fait, travailler et couvrir toutes les activités.
Vous semblez évoquer d'autres journalistes qui ont subi des pareils cas
à Goma, un qui a été assassiné de façon vraiment horrible. Donc, ça fait 4 jours. Il y a un autre qui a été incarcéré depuis la fin passée, je pense, Papi Okito, que nous venons d'apprendre qu'il vient d'être libéré.
Edmond Izouba, porte-parole du Rassemblement des journalistes pour l'émergence du Congo.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 87.2 FM.
Au Tchad, les réfugiés soudanais installés dans le nouveau camp de Farchana dans la province du Houdaï craignent pour leur sécurité. Les femmes rapportent des cas d'agression sexuelle, obligeant nombre d'entre elles à ne pas sortir du camp durant certaines heures. André Kotmajingar, notre correspondant à Ndjamena, nous parle de cette situation au Wadaï. Il fait le point.
Depuis le début du conflit au Soudan le 15 avril entre deux généraux rivaux, le Tchad continue d'enregistrer un afflux de réfugiés soudanais et de Tchadiens rentrés du Darfour. Au 11 septembre, l'OICR affirme avoir enregistré plus de 418 nouveaux réfugiés sur le sol tchadien. Installés dans les provinces du Wadaï, du Wadi Fira et du Sila, ces réfugiés retournés tchadiens vivent toujours le cauchemar qui les rappelle la situation qu'ils ont vécue au Soudan, comme en témoigne au micro de VOA Afrique, Mohamed Issaka Moussa, président du nouveau camp de Farchana.
Il se passe des choses horribles dans ces camps. Chaque jour, des personnes inconnues cherchent à violer nos femmes. C'est le cas d'une femme qui a failli être victime lorsqu'elle revenait du marché. Lui, c'était la vigilance des passants avec son bébé au dos. La scène s'est déroulée à côté même de l'ancien camp des réfugiés. Quelquefois, il y a eu aussi des bagarres rangées entre les réfugiés à l'intérieur du camp. Et que nous appelons les agents de sécurité au secours, ils ne viennent pas sous prétexte qu'ils n'ont pas de moyens de déplacement. Finalement, nous sommes traumatisés.
Madame Fatma Adam Mahamad, qui a perdu son mari et son beau-fils dans la guerre au Soudan, confirme les violences et exige des autorités tchadiennes plus de sécurité.
Comparativement à la situation que nous avons vécue au Soudan, nous sommes mieux ici, mais nous avons un sérieux problème de santé et quelques poches d'insécurité. Il n'y a pas de centre de santé ici dans le camp. Et en cas de maladie, et que nous partons pour nous faire soigner en ville, les gens nous agressent. À partir de 16 heures, heure locale, aucune femme ne peut sortir en dehors du camp, même pour aller chercher des fagots pour la cuisine. Nous demandons au gouvernement tchadien et au HCR de nous construire un centre de santé ici au camp pour nous éviter des problèmes avec les autochtones.
Le représentant de la CENAR, la Commission nationale d'accueil, de réinsertion des réfugiés et des patrie et par ailleurs gestionnaire du nouveau camp de Farchana, Tuki Alafouza, dit ne pas être au courant de l'agression sexuelle dont sont victimes les réfugiés.
Avant qu'ils rentrent dans la frontière, il y avait des femmes qui étaient violées. Celles-là aussi, je crois qu'elles sont prises en compte par les services de IAS ou soit Oxfam pour le traitement, tout ça. Mais ici, nous avons ce qu'on appelle le stationnement de protection humanitaire. Beaucoup y sont opérationnels dans les lieux où de nouveau les réfugiés viennent. Mais entre eux, peut-être il y a des chamois, ça c'est des petits trucs que les leaders eux-mêmes ont en train de traiter.
Si la guerre ayant occasionné les affrontements intercommunautaires se poursuit au Soudan, le gouvernement tchadien estime qu'il pourrait accueillir sur son territoire plus de 600 000 réfugiés soudanais et retourner tchadiens d'ici fin 2023. André Kodmajingar, de retour de Farchana, province du Wadaï, Ndjamena, pour VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seloudia, à la mise en onde de Michel Joseph, à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, X, Lex Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.